chercheur à l'honneur. En 2025, la Fondation Michel Serres, Institut de France, a distingué le travail de 6 chercheuses et chercheurs pour leur thèse interdisciplinaire. Ils présentent leurs travaux sur la plateforme de podcast de l'Institut de France. Vous écoutez le premier épisode de cette série. L'intelligence artificielle est partout. Si elle promet d'innombrables possibilités, elle pose aussi des questions vertigineuses. Face à l'évolution des systèmes génératifs comme ChatGPT, de nombreuses critiques philosophiques ont émergé. Un sujet passionnant auquel s'est intéressé François Levin, lauréat de la Fondation Michel Serres, au cours de sa thèse qui porte le nom suivant « L'intelligence artificielle au défi de ses critiques philosophiques ». François Levin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au studio de l'Institut de France. Avant de parler de votre sujet d'étude, racontez-nous un peu votre parcours. Pourquoi la philosophie ?
Moi, j'ai fait des études assez classiques en philosophie, une prépa, j'étais à l'ENS à Lyon. Et en fait, peut-être ce qui est plus intéressant dans mon parcours, c'est que j'ai à un moment quitté la philosophie parce que je pense que j'avais envie de voir d'autres choses, notamment des questions plus politiques autour du droit, de l'économie, etc. Et de quitter aussi des logiques un peu trop d'exégèse qu'il y a parfois en philosophie. Et donc, j'ai travaillé quelques années dans une institution qui s'appelle le Conseil national du numérique, où l'objectif était de conseiller le gouvernement à l'époque. Je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de ce retour-là.
Vous avez donc réalisé une thèse sur les critiques philosophiques de l'intelligence artificielle. Pourquoi ce sujet ? Qu'est-ce qui vous a mené sur cette piste, en fait ?
Quand je travaillais au Conseil national du numérique, j'ai travaillé déjà un peu sur l'intelligence artificielle. J'ai produit un rapport et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de discours de manière très importante. Déjà à l'époque, c'était il y a quelques années, et encore plus maintenant, évidemment. Donc il y a une sorte de brouhaha permanent autour de ce sujet. Il m'a semblé à un moment qu'il était nécessaire de revenir à un discours plus articulé, et pour ça la philosophie me paraissait tout à fait nécessaire de savoir ce qui se disait, comment ça se disait, et donc pour sortir un peu de cet ensemble de discours, j'ai décidé de faire une thèse sur ce sujet.
Dans votre travail, vous mettez notamment en lumière 2 discours critiques de l'IA. Est-ce que vous pouvez essayer de nous raconter le plus simplement possible quels sont ces discours critiques ?
Oui, c'est qu'en fait au début j'ai abordé ce thème de l'intelligence artificielle en essayant de trouver un angle. Et j'avais au début des angles plus classiques en philosophie, en épistémologie, en philosophie de l'esprit, comme IA et créativité, IA et action, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu insatisfaisant et que ça menait pas vraiment quelque part. Et que du coup, j'ai plutôt choisi une approche en termes de philo-politique, qui essaie de comprendre nos relations avec ces technologies-là. Et en regardant un peu ce qui se faisait, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de discours critique assez fort en philosophie, notamment en France, et que ces discours consistaient à défendre contre l'avancée de l'intelligence artificielle, une singularité de l'être humain, et à déplorer la perte des capacités, etc., qu'entraîne l'intelligence artificielle. Et pour essayer de mieux comprendre ça, j'ai essayé de savoir à quoi ils se rattachaient philosophiquement, et il m'a semblé qu'il y avait en effet 2 grands paradigmes. Ces 2 paradigmes avaient pour objectif de remettre un peu en perspective le discours dominant, consiste à dire que l'IA, c'est un outil qui nous sert à améliorer notre capacité d'action, notre efficacité, à lutter davantage contre l'incertitude, à mieux prévoir, etc. Ces discours consistent à dire, non, en fait, il y a quelque chose d'autre à comprendre et que l'IA répond à quelque chose ou est le révélateur de quelque chose.
D'accord, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que ça veut dire ?
Tout d'abord, il y a un discours d'obédience, ou du moins d'obédience, qui s'inscrit dans une généalogie foucauldienne, donc de Michel Foucault, qui consiste à dire que ces technologies sont développées pour répondre à une nécessité qui est lié à la transformation des modes de gouvernementalité. C'est-à-dire qu'on passe d'un mode de gouvernementalité disciplinaire, fondé sur l'ordre, l'application de normes, à quelque chose qui embrasse l'événement, l'incertitude, le hasard, etc. C'est le mode de gouvernementalité que Foucault appelle la sécurité, et que l'IA s'inscrit dans ce champ-là, et donc c'est une technologie de surveillance, de contrôle, de sécurité, qui permet de prévoir, de mieux adapter en temps réel la normalisation des comportements. Ça, c'est le premier paradigme.
Très bien.
Le deuxième, il est peut-être encore plus radical, mais il consiste à affirmer qu'au fond, l'IA est seulement le dernier moment ou la révélation de quelque chose de plus général, qui est un mouvement de la modernité, et qui est le triomphe de la rationalité calculatoire, ou du calcul, pour le dire plus simplement, c'est-à-dire le fait que notre rapport au monde est constitué d'abord à partir du calcul, et que depuis le XVIIe, depuis la modernité, on va dire scientifique et philosophique, ce rapport au monde-là n'a eu de cesse de se développer et de devenir extrêmement puissant. Et aujourd'hui, l'automatisation que permet donc l'intelligence artificielle dans un certain nombre de secteurs serait un des moments d'achèvement, le point le plus contemporain de ce développement du calcul. Et que la critique heideggerienne, il ne s'agit pas juste de décrire ça, mais consiste à affirmer que cette invasion, ou du moins ce développement du calcul massif, au fond, augmente notre maîtrise, augmente notre efficacité, mais à l'endroit même où cette maîtrise s'accentue, en fait, on perd à la fois le rapport réel aux choses, on perd quelque chose qui relève de l'incalculable, qui relève de l'être, pour Heidegger, bien sûr, et on perd également nos propres capacités. On est dépossédé de nos propres capacités. Donc, en fait, dans notre maximum de puissance, on crée un rapport aux choses et à soi-même, qui est un rapport de la pure répétition, de la pure dépossession et en fait de la perte.
À la fin de vos thèses, vous remettez en cause ces discours critiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors oui, en fait, j'ai déjà donc essayé de les comprendre, c'est de voir exactement ce qu'ils disaient et de montrer qu'au fond, les discours contemporains s'inscrivaient dans ces deux généalogies-là. Et ensuite, j'ai essayé de savoir, au fond, si les évaluer, tout simplement. Et d'essayer de savoir si j'étais d'accord avec ces discours et si, surtout, ils arrivaient à capter l'entièreté de ce que signifie aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et il m'a semblé qu'ils avaient des limites à la fois épistémologiques et politiques. Il m'a semblé que, justement, ça, c'est la première un peu idée, c'est de dire qu'au fond, notamment la critique heideggerienne du calcul, elle est très puissante, elle est très intéressante et elle est évidemment très bien développée. Mais il me semble qu'elle manquait quelque chose de l'ordre de ce que révèle aujourd'hui l'IA, à savoir le fait que le calcul ne relève pas forcément d'une logique du même, d'une logique de la répétition, mais peut également relever d'une logique de l'altérité, de la découverte et du décentrement, en fait. Pour Heidegger, le calcul, c'est l'aboutissement du sujet humain qui contrôle absolument son univers et qui par là même le perd. Alors que, d'une certaine manière, et on le voit déjà chez Leibniz, et dans le livre de Michel Serres, que le calcul n'est pas forcément un endroit de répétition, de fermeture sur le même, mais un endroit d'ouverture, et potentiellement de décentrement, d'ouverture à d'autres perceptions, d'autres dimensions de la perception, notamment à l'échelle, par exemple, planétaire. Et ça, l'intelligence artificielle, c'est une des dimensions qui m'a paru intéressante dans cette technologie, c'est qu'elle révèle ou qu'elle met... et qu'elle met au jour le fait que justement le calcul peut être autre chose que de la répétition, alors même qu'on l'a accusé d'être un perroquet stochastique, c'est-à-dire que par exemple un modèle de langage ne fait que répéter la même chose en permanence. Là, il s'agirait de montrer qu'au fond, il y a des capacités, si ce n'est de créativité, du moins d'exploration, d'une infinie combinatoire qui se développe dans l'intelligence artificielle, et qu'aussi il y a une capacité d'ouvrir à des modes de perception. Par exemple, au niveau planétaire, j'en parlais rapidement, mais que la computation permet de produire des représentations à des échelles qui nous dépassent complètement, à des échelles cosmiques, à des échelles soit toutes petites, soit infiniment grandes, de manipuler des quantités de données, et qu'aujourd'hui, notre capacité à comprendre, par exemple, le réchauffement climatique, d'une certaine manière, est un produit de la computation planétaire, qui n'existait pas il y a encore 100 ans. Donc ça, c'était la première chose sur les limites épistémologiques. Les autres limites, elles sont d'ordre politique, très rapidement. Il m'a semblé que d'une position heideggerienne ou foucauldienne, qui sont aujourd'hui, du coup, tiennent le haut du pavé, peut-être dans une certaine philosophie de la technique, perspective technocritique, amène à la fois à une pensée pour Heidegger. En fait, la sortie politique de tout ça, c'est une sorte de pensée de l'incalculable qui peut parfois se rapprocher d'une forme de mélancolie de l'incalculable en disant quelque chose qui a été perdu, qu'on ne peut retrouver qu'avec une sorte de conversion, une sorte de moments d'épiphanie où on sortirait du règne de la modernité, et de l'autre avec Foucault qui lui est pas du tout pense pas du tout de la même manière. On est dans une logique potentiellement de la pure subversion, c'est-à-dire une logique où on joue à l'intérieur des normes du calcul, des normes de la surveillance, des normes du contrôle, mais on ne peut jamais en sortir. Et contre ces deux logiques, j'ai essayé de proposer une idée de l'émancipation à l'intérieur même des agencements IA et être humain.
Votre travail, il est profondément interdisciplinaire. Vous avez croisé les sciences de l'informatique avec donc la philosophie. Selon vous, pourquoi la philosophie est essentielle pour comprendre les questions et les enjeux autour de l'IA ? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette philosophie ?
Moi, je pense qu'elle apporte différentes choses. En l'occurrence, moi, ce qu'elle m'a apporté, c'est justement d'essayer de mieux comprendre ce qui se disait autour de l'IA, parce que l'IA, c'est une technologie, évidemment. on en fait des choses, mais l'IA, c'est aussi un ensemble de discours qui sont produits autour et un ensemble de décisions politiques qui sont prises à son égard. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc un objectif de clarification, la deuxième chose, c'est sur quoi je finissais. Il me semble qu'il y a aussi une possibilité de trouver dans l'histoire de la philosophie des voies pour l'émancipation. Et à cet égard, moi, c'est la pensée de Deleuze et Guattari sur laquelle j'ouvre un peu à la fin de ma thèse qui me permet de penser des logiques émancipatrices dans les agencements. Ce qu'ils appellent les agencements, pour eux, il n'y a pas de destin de la technique qui se déploierait dans l'IA, mais il y a des formes d'agencement qui sont déterminées en grande partie par les systèmes socio-économiques, notamment capitalistes. Et dans ces agencements, il est possible de trouver une manière de les transformer, de les faire bifurquer, de les faire se modifier pour donner des modes de subjectivation, pour reprendre le mot qu'ils utilisent, c'est-à-dire des modes de constitution du sujet qui sont émancipateurs, qui sont alternatifs aux modes actuels, qui sont largement fondés sur des logiques de répétition, des logiques narcissiques, un peu dans la continuité des réseaux sociaux. On voit dans la machine un pur miroir de ce qu'on est, qu'on essaie soit de dominer, soit avec lequel on essaie de lutter, soit qui nous dépasserait en permanence.
Peut-être un mot pour finir sur la fondation Michel Serres. Comment avez-vous découvert l'existence de ce prix? Pourquoi avez-vous décidé de postuler?
J'ai découvert l'existence de ce prix en regardant les différents prix de thèse, évidemment. Mais là où j'ai essayé de postuler, c'est que déjà, la pensée de Michel Serres, que je ne connais pas très bien, me paraît très intéressante. Également, puisque l'idée d'une interdisciplinarité paraît essentielle. Dans l'université française, ce n'est pas très reconnu. C'est souvent un peu complexe. On se sent parfois un peu seul lorsqu'on fait une thèse interdisciplinaire, puisqu'on n'est pas vraiment au cœur de sa discipline, donc les gens ne comprennent pas très bien, mais en même temps, on n'est pas non plus tout à fait dans l'autre discipline. Et donc, qu'il y ait un prix qui soit constitué pour récompenser ou du moins valoriser des travaux qui sont à l'intermédiaire de ces disciplines, je trouve ça particulièrement intéressant.
Un grand merci à vous, François Levin. Je rappelle le nom de votre thèse pour nos auditeurs, l'intelligence artificielle au défi de ses critiques philosophiques. Merci beaucoup.
Les podcasts de l'Institut de France.